Chapitre 20e. Toute mon ambition se bornait à trouver un emploi qui me donnât le nécessaire. Je n'avais pas d'autre pensée. Mais jamais je n'avais été plus loin du but que je me proposais d'atteindre. À la fin d'août se terminait l'année scolaire. Les examens seraient finis. On distribuerait les prix. On ouvrirait les portes de toutes les pensions, qui se refermeraient sur les élèves pour ne se rouvrir que dans les premiers jours d'octobre. Nous touchions aux vacances et... quelle était ma position? L'avais-je améliorée depuis le dernier trimestre? Devais-je espérer de l'avancement à l'époque de la rentrée? Bien loin de là. J'avais, en renonçant à donner des leçons chez Miss Reuter, diminué mon revenu de 500 francs. De 1500 livres de rente, il ne me restait que 1000. Encore cette dernière somme n'était-elle pas bien assurée? Il y a longtemps que je n'ai rien dit de Mr. Pellet. Je crois que sa promenade au clair de lune avec Miss Reuter est le dernier incident de cette histoire, où il était question de lui. Le fait est que depuis lors nos relations avaient changé de nature. Ignorant toujours que le silence de la nuit, un clair de lune sans nuages et une fenêtre ouverte m'avaient révélé le secret de son égoïste amour et de sa fausse amitié, il conserva d'abord à mon égard les mêmes prévenances et la même grâce affectueuse. Mais je devins aussi difficile à manier qu'un porc-épic, aussi inflexible qu'un bâton d'épines noires. Je n'avais plus désormais de sourire pour ses bons mots, d'instant à donner à sa conversation, et c'est d'un air froid et sévère que je refusais d'aller prendre le café avec lui. J'écoutais maintenant ses allusions railleuses, qu'il continuait toujours à propos de Miss Reuter. Je les écoutais, dis-je, avec une tranquillité maussade, bien différente du plaisir bouillant qu'elle me causait jadis. Mr. Pellet supporta longtemps ma froideur avec patience. Il redoubla même d'attention et de politesse. Mais voyant que toutes ses avances ne parvenaient pas à m'émouvoir, il ne m'invita plus, m'examina sans cesse, compara mes manières avec ce qu'elles étaient autrefois. Et je vis à son air inquiet et pensif qu'il s'efforçait de deviner la cause d'un changement aussi marqué. Il ne fut pas longtemps sans y parvenir, car il était doué d'une assez grande pénétration. Peut-être aussi Mademoiselle Zoraïde l'avait-elle aidé à trouver le mot de l'énigme. Quoi qu'il en soit, j'acquis bientôt la certitude que le doute avait disparu de son esprit. Renonçant à tout semblant d'amitié, il adopta vis-à-vis de moi une réserve glaciale, mais d'une politesse scrupuleuse. C'était à cela que je désirais l'amener, et je me trouvais dès lors beaucoup plus à mon aise. Ma position, il est vrai, ne m'était pas fort agréable, mais une fois délivré de ces fausses professions d'estime et de tendresse, je la supportais d'autant plus facilement que je n'avais dans l'âme ni jalousie profonde ni haine invétérée pour le chef d'institution. La blessure qu'il m'avait faite, si elle avait jamais existé, avait guéri si promptement et si radicalement qu'il ne me restait plus qu'une sensation de mépris pour la main qui avait été capable de me l'infliger dans l'ombre. Cet état de choses avait continué jusqu'à la mi-juillet. Mr. Pellet rentra un soir plus tard qu'à l'ordinaire et dans un état d'ivresse évidente, ce qui chez lui était complètement anormal. Car, s'il avait quelques-uns des défauts de ses compatriotes, il avait aussi la sobriété qui est une de leurs vertus. Néanmoins, il avait, ce soir-là, tellement perdu la raison, qu'après avoir sonné à tout rompre, ce qu'heureusement les élèves couchés dans un bâtiment situé au front de la cour ne pouvaient pas entendre, il prit minuit pour midi, ordonna de servir le goûter, s'emporta contre les domestiques à propos de leur inexactitude, et fut sur le point de maltraiter sa pauvre mère, qu'il engageait à monter dans sa chambre et à se coucher immédiatement. J'étais encore à ma table. Une lecture attachante m'avait fait oublier l'heure. J'entendis tout ce vacarme et la voix de Mr. Pellet monter un diapason qui ne lui était pas habituel. J'ouvris ma porte. Il demandait précisément qu'on lui amenât cet infernal anglais, dont il voulait couper la gorge sur la table du réfectoire, afin, disait-il, de laver son honneur outragé dans le sang de ce Crimsworth maudit. « Il est ivre ou fou, » pensais-je. Dans tous les cas, sa vieille mère a besoin d'assistance. Et je descendis en toute hâte. Je le trouvais chancelant sur ses jambes, roulant des yeux remplis de fureur, affreux à voir, quelque chose entre la folie et la rage. « Allons, Monsieur Pellet, » lui dis-je, « vous serez mieux dans votre lit. » Je le saisis par le bras et je voulus l'entraîner. La vue et l'attouchement de celui dont il demandait la tête l'exaspérèrent plus que jamais. Il se débattit furieusement et tenta de me frapper. Mais un homme ivre ne peut pas lutter avec un homme à jeun. D'ailleurs, le corps usé de Mr. Pellet n'aurait en aucun temps pu résister à ma vigueur. Je lui fis monter l'escalier, et je parvins à le coucher, non sans peine et surtout sans injure. Il ne cessa, pendant toute l'opération, de me stigmatiser du nom de traître, et de m'appeler digne rejeton d'un pays odieux et perfide, comprenant dans son anathème Zoraïde Reuter, cette femme vicieuse, qui, dans un accès de passion, s'était jetée dans les bras d'un aventurier sans principe. Il accompagna ses dernières paroles d'un coup violent qu'il me destinait et qui tomba dans le vide. Je partis, le laissant bondir hors de son lit, où je l'avais retenu jusque-là, et fermant la porte à clé derrière moi, je rentrai dans ma chambre, certain qu'il était en lieu sûr, et l'abandonnant jusqu'au lendemain à toutes les réflexions que lui inspirerait la scène dont je venais d'être témoin. C'est précisément à cette époque que Miss Reuter, piquée de ma froideur, vaincue par mon mépris, excitée par la préférence qu'elle me supposait pour une autre, fut prise au piège qu'elle avait imaginé et tomba dans les filets où elle avait espéré me retenir. Sachant ce qui se passait de ce côté-là, je conclus des paroles du chef d'institution que la dame de ses pensées avait trahi son secret. Elle lui avait laissé voir que la cavité de son cœur était maintenant occupée par l'image de cet indigne Anglais. Ce n'était pas sans surprise que je me voyais forcé d'admettre cette incontestable vérité. Mr. Pellet, possesseur d'un pensionnat, dont l'ancienne prospérité allait croissant chaque jour, était un parti si brillant que je ne pouvais comprendre que Zoraïde, la plus intéressée des femmes, préféra les qualités personnelles d'un pauvre diable à des avantages aussi palpables. D'après ce que l'ivresse avait fait dire au chef d'institution, il était évident que Miss Reuter ne s'était pas bornée à leur pousser, mais qu'elle avait laissé échapper quelques expressions qui témoignaient de sa partialité pour moi. « La vieille sotte raffole de votre jeunesse, » disait-il dans sa fureur. « Elle vante la distinction de vos manières, comme elle appelle votre roideur britannique. Et elle parle de votre moralité, stupide blanc-bec, des mœurs de Caton, la vieille sotte. » N'est-il pas étrange que le mépris ironique d'un subordonné sans fortune ait produit sur cette âme, naturellement éprise des biens de ce monde, une impression plus vive que les assiduités d'un chef d'institution à la fois riche et bien posé? Je ne pus m'empêcher de sourire en acquérant cette preuve d'un succès que je n'avais pas désiré. Toutefois, bien que cette conquête flattât mon amour-propre, mon cœur n'en était pas touché. Lorsque le lendemain Zoraïde s'excusa de me recevoir dans le corridor, et tenta de fixer mon attention par son humilité, c'est à peine si je ressentis de la pitié pour elle. Un salut glacial et une réponse brève et sèche aux questions pressantes qu'elle me faisait sur ma santé fut tout ce que je pus lui accorder. Sa présence et ses manières produisaient sur moi depuis quelque temps un singulier effet. Elle neutralisait le bon côté de ma nature et développait le germe des mauvais penchants qui s'y trouvaient cachés. Sa vue énervait parfois mes sens, mais elle ne manquait jamais d'endurcir mon cœur. Je le sentais, et je m'en faisais de vifs reproches. J'ai toujours abhorré le despotisme, et il m'était odieux de me voir transformé en tyran par l'approche d'une esclave dont je n'avais pas désiré la possession. Il y a, dans cet encens lascif que vous offre une adoratrice encore jeune et attrayante, un parfum irritant qui mêle au plaisir qu'il produit le sentiment de la dégradation où vous plonge la jouissance qu'il vous cause. Lorsqu'elle venait à se glisser auprès de moi du pas craintif de l'esclave, je me sentais devenir à la fois barbare et sensuel comme un pacha. Je repoussais ou j'agréais son hommage, suivant l'impulsion du moment, et quelle que fût ma dureté ou mon indifférence, j'augmentais chaque jour le mal que je voulais réprimer. « Comme le dédain lui sied bien, » disait-elle une fois à sa mère, ne se doutant pas que j'entendais ses paroles. « Il est beau comme Apollon, quand il se met à sourire avec son air hautain. » La vieille dame répondait en riant qu'il fallait être ensorcelé pour être de cet avis-là, car je n'avais rien d'un bel homme, si ce n'est que j'étais grand et sans difformité. « Pour moi, » ajouta-t-elle, « il me produit l'effet d'un chat-huant quand il a ses besicles. » La digne femme, je l'aurais embrassée volontiers, si elle avait été moins vieille, moins grasse et moins couperosée. Ses paroles, pleines de sens, me paraissaient tellement saines, rapprochées des illusions morbides de sa malheureuse fille. Le lendemain de son accès d'ivresse, Mr. Pellet n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé la veille, et sa mère fut heureusement assez discrète pour ne pas lui dire que je l'avais vu dans cet état de dégradation. Il ne chercha plus désormais l'oubli de ses chagrins au fond de la bouteille, mais il était facile de voir que la jalousie avait pénétré dans son cœur. Véritable Français, la nature n'avait pas omis de lui donner cette dose de violence qui est l'un des traits caractéristiques de sa nation. La haine qu'il avait manifestée à mon égard pendant son ivresse avait eu dans son expression quelque chose d'infernal, et se trahissait maintenant par la contraction momentanée de ses traits et par les sombres éclairs dont ses yeux étaient remplis quand ils s'arrêtaient sur les miens. Non seulement il m'épargnait sa politesse menteuse, mais encore il évitait la moindre occasion de me parler. J'étais loin de m'en plaindre. Toutefois, cette position avait quelque chose de révoltant. Il m'était odieux de vivre dans la maison et au gage de cet homme. Qui peut, hélas, échapper à la nécessité? Je me levais chaque matin, impatient de briser ma chaîne et voulant partir, mon porte-manteau sous le bras, pauvre comme un mendiant, mais ayant du moins recouvré ma liberté. Et le soir, quand je revenais du pensionnat voisin, tout ému du son de voix qui vibrait à mon oreille, les yeux remplis d'une image pensive, intelligente et douce, l'esprit absorbé par le souvenir de ce caractère plein de fierté et pourtant si flexible, de cette nature ardente et grave, de cette dignité modeste qui troublait ma mémoire, le désir de contracter de nouveaux liens, de nouvelles charges, imposait silence aux rebelles et me faisait envisager la résignation comme une vertu de spartiate. Sur ces entrefaites, la fureur de Mr. Pellet disparut tout à coup. Il avait suffi d'une quinzaine pour la développer et l'éteindre. C'est pendant ce temps-là qu'avait eu lieu le renvoi de la maîtresse de couture, et qu'ayant demandé son adresse sans pouvoir l'obtenir, j'avais à mon tour donné ma démission à Miss Reuter. Cet acte de vigueur avait enfin rappelé cette dernière à elle-même, et l'avait fait rentrer dans la voie qu'une décevante illusion lui avait fait quitter. Je ne veux pas dire qu'elle rentra dans le sentier de la vertu, où jamais elle n'avait mis les pieds, mais elle foula de nouveau la grande route du sens commun, dont elle s'était largement écartée. Son premier soin fut de se remettre à la piste de son ancien adorateur, qu'elle rejoignit bientôt. J'ignore par quels moyens elle réussit à calmer sa colère et à lui remettre un bandeau sur les yeux. Mais il fallait bien qu'elle fût parvenue à lui persuader que je n'avais jamais été son rival, puisque la haine du chef d'institution pour moi fit place immédiatement un excès d'aménité, où se mêlait un certain contentement de soi-même, plus risible qu'irritant. Mr. Pellet avait mené la vie de garçon d'après la méthode française, c'est-à-dire sans égard pour les mœurs, et je pensais que la période matrimoniale de son existence rentrerait dans le même système. Il s'était vanté plus d'une fois, en causant avec moi, d'avoir fait la terreur des nombreux maris de sa connaissance. Je prévoyais qu'il serait facile de lui rendre la monnaie de sa pièce. Le moment décisif approchait. Les vacances étaient à peine ouvertes que des préparatifs annonçant quelque grand événement se firent de tous côtés dans la demeure particulière de Mr. Pellet. La maison fut livrée aux peintres et aux tapissiers. On parla du salon de madame, de la chambre et du cabinet de madame, et ne supposant pas que la vieille duègne, qui pour le moment était gratifiée de ce titre dans l'institution, eût inspiré à son fils une pitié filiale assez ardente pour le pousser à de semblables dépenses, j'en conclus avec le cuisinier, les deux servantes et le marmiton, que ces chambres si fraîches devaient être occupées par une madame plus gracieuse et plus jeune. Bientôt la grande nouvelle fut annoncée d'une manière officielle. Mr. François Pellet et Miss Zoraïde Reuter, tous les deux chefs d'institution, devaient s'unir la semaine suivante par les liens du mariage. Ce fut l'heureux François qui me l'apprit en personne, ajoutant qu'il espérait bien que je resterais son ami comme je l'avais toujours été, et que je continuerais à l'aider de mes services, dont il élevait le salaire de 200 francs par an. Je le remerciai toutefois sans lui répondre d'une manière définitive. Lorsqu'il fut parti, je quittai ma blouse et mettant mon paletot, j'allais faire une longue promenade du côté de la porte de Flandre afin de me rafraîchir le sang et de rétablir un peu d'ordre au milieu de mes idées. Je venais par le fait de recevoir mon congé. Il m'était impossible de me dissimuler que Miss Reuter devenant Mrs. Pellet, je ne devais pas rester dans une maison qui allait être la sienne. La conduite qu'elle tenait maintenant à mon égard était certainement remplie de convenance et de dignité. Mais je savais qu'au fond, ses sentiments n'avaient pas changé. Réprimée aujourd'hui par la nécessité, masquée par la feinte, l'occasion serait plus forte que le décorum et ne tarderait pas à triompher de la réserve qu'il impose. Je n'étais point le pape. Je ne pouvais pas me vanter d'être infaillible. Bref, si je restais dans la maison, il était probable qu'avant 3 mois, un roman français de l'école moderne serait en cours d'exécution sous le toit du malheureux et trop confiant Pellet. Or, je n'aime l'école française ni en théorie ni en pratique. J'ai eu, malgré mon peu d'expérience, l'occasion de voir de près un exemple de ces trahisons domestiques, aussi intéressantes que romanesques pour celui qui n'en est pas témoin. Quant à moi, qui contemplais le fait dans toute sa nudité, il m'a rempli de dégoût. Je n'y ai vu qu'une âme dégradée par le mensonge, par l'emploi continuel de misérables subterfuges, et un corps énervé par l'influence délétère d'un esprit corrompu. J'ai beaucoup souffert de la vue prolongée de ce spectacle, mais je ne le regrettais pas, car le souvenir de mes souffrances agissait comme un puissant antidote contre la tentation. Je leur devais cette conviction profonde que le plaisir illégitime est un plaisir empoisonné. Trompeur dans le présent, il vous réserve 1000 tortures et vous déprave pour toujours. La conclusion de tout cela était que je devais quitter immédiatement la maison de Mr. Pellet. « Comment vivras-tu ? » m'objectait la prudence. Et mon rêve d'amour vint à passer devant mes yeux. Frances était à côté de moi. Sa taille flexible invitait mon bras à la prendre. Sa main attirait ma main. Je sentais qu'elle était faite pour reposer dans la mienne. Je ne pouvais pas renoncer au droit que j'avais de m'en emparer, et détourner mes yeux des siens où je voyais tant de bonheur, tant de rapports entre nos âmes. De son regard, qui sous mon influence devenait plus brillant ou plus sombre, et dont l'expression se modifiait à mon gré. Toutes mes espérances, tous mes projets de travail se dressaient contre moi. J'avais résolu de faire tout au monde pour arriver à subvenir aux besoins d'un ménage. Au lieu de cela, je me plongeais dans un dénuement absolu. « Et pourquoi ?» me demandai-je. « Pour éviter un mal qui peut-être n'arrivera jamais. »« Qui en est certain ?» répondait la conscience. « Fais ton devoir, obéis-moi, poursuivais ce moniteur inflexible. Je te soutiendrai, alors même que tu aurais à traverser le marais fangeux de la misère. » Et tout en marchant d'un pas rapide, la pensée d'un être supérieur, invisible, mais toujours présent, s'éleva dans mon esprit. Être qui, dans sa bonté suprême, ne désirait que mon bien, et qui, attentif à la lutte qui se passait dans mon âme, regardait si j'allais obéir à sa voix, dont ma conscience me transmettait les paroles, ou prêter l'oreille au sophisme de l'esprit du mal qui cherchait à m'égarer. Le sentier que désignait l'inspiration divine était rude. Celui où m'attirait la tentation, doux et couvert de fleurs. Mais l'amour, cet ami de toute créature, me souriait lorsque je me dirigeais vers la montée rocailleuse, tandis que chacun de mes pas vers la pente gazonnée allumait un éclair de triomphe dans le regard du démon. Je me retournai vivement et je repris la route de Bruxelles. Une demi-heure après, j'étais dans le cabinet de Mr. Pellet. Quelques paroles suffirent à lui déclarer mes intentions. La manière dont elles furent prononcées lui montra que ma détermination était irrévocable. Peut-être au fond du cœur approuvait-il ma conduite. Au bout de 20 minutes d'entretien, je me retrouvai dans ma chambre, n'ayant plus aucun moyen d'existence et m'étant condamné volontairement à quitter avant 8 jours cette maison qui jusqu'à présent était mon seul asile.